Allez, chers les amis, dans ce cinquième dimanche après Pâques, nous sommes toujours dans l'évangile de Saint Jean. J'allais dire, on ne se lasse pas de tous ces évangiles des lendemains de Pâques. Et comme je vous l'ai souvent dit, mais je ne m'y attarderai pas, l'évangile commence par à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. Vous savez qu'il y a une théologie, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement provenant de la parole même de Dieu sur la notion d'heure. Donc je ne reviens pas là-dessus. Ça veut dire que c'est un temps important où le Seigneur Jésus-Christ a un message à nous donner. Et j'allais dire, ce message se résume parfaitement et résume parfaitement l'ensemble de ce discours du chapitre 14, versets 1 à 12 que nous écoutons ce dimanche. Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Eh bien, faisons appel à notre bon sens. Si Jésus commence par dire ne soyez donc pas bouleversés, ça veut dire tout simplement que les disciples ou les personnes de l'époque ne cachaient pas leur angoisse et leurs interrogations. Et on les comprend. Je ne reviens pas non plus là-dessus. Nous savons parfaitement le contexte. Les disciples, les apôtres, les amis du Seigneur étaient entourés d'hostilité en tout genre. Et ils savaient que le compte à rebours, si on peut s'exprimer ainsi, de leur propre existence, avait commencé. Et donc, cette angoisse, on peut dire, eh bien, a été doublée d'une horrible déception, je vous l'ai dit, parce que leur chef, à savoir la personne du Christ, ben, c'était l'échec absolu. Celui qu'ils croyaient être leur libérateur du joug des Romains, puisque le pays est occupé, là non plus je ne reviens pas là-dessus, je vous l'ai dit très souvent, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Vous savez, ça c'est la toile de fond générale de tous ces discours, de tous ces évangiles des lendemains de Pâques. Eh bien, oui, ils sont déçus. Ah, on les comprend. Moi, j'aurais été très déçu, évidemment, à leur place. Alors, donc, le Seigneur va s'employer peu à peu à, si je puis dire, essayer de déplacer, entre guillemets, leur espérance. Et, bon, déplacer leur espérance, c'est bien joli, mais il faut pouvoir combler, si je puis dire, ce déplacement. Alors, la méthode du Christ, ce n'est pas celle que nous voyons aujourd'hui dans les rues de Paris ou d'ailleurs. Il ne va pas prendre la tête d'un soulèvement national contre l'occupant. À la limite, il n'en a que faire, au contraire. Bon, vous le savez, le Seigneur n'a eu de cesse que de prêcher la non-violence. Et donc, attardons-nous quelques instants sur la notion de libération. Quelle est donc la libération que Jésus va proposer? Quelle libération il apporte? Où se situe cette libération? Sur quel plan est-ce qu'elle se situe? Voilà quelques questions que soulève cet évangile. Bien, évidemment, Jésus ne comble pas leur attente terrestre, même s'il est celui qu'on attendait. Jésus va se placer à un tout autre plan. Il va commencer par faire appel à leur foi. Ne soyez donc pas bouleversés, sous-entendu, puisque vous croyez en Dieu. Hein? Alors, bien sûr, une chose est de croire en Dieu, et une autre chose, ça c'est acquis, si je puis dire, pour le peuple juif, mais une autre est celle de croire en Jésus. Bien sûr, au moment précisément où il semble avoir perdu la partie, presque définitivement. Hein? Bon, voilà la toile de fond de cette rencontre de l'évangile d'aujourd'hui. Alors, la deuxième ligne de fond que propose le Seigneur, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Sous-entendu, croyez ce que je vous dis. Celui qui croit en moi accomplira les œuvres, les mêmes œuvres que moi. Hein, souvenons-nous de ces paroles. Mais alors surgit une autre question. Comment accorder à Jésus la même foi qu'à Dieu? Oui, eh bien, on imagine, c'est la même chose pour nous, il faut faire un saut considérable. Il faut que Jésus leur fasse percevoir tout simplement, enfin, je dis tout simplement, mais une façon de parler, eh bien, la profonde unité, la profonde relation que Jésus entretient entre le Père et lui. Et c'est là la troisième ligne de force que propose le Seigneur dans cette libération dont nous parlions tout à l'heure. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, nous connaissons le texte par cœur, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Voilà. Il faudrait, nous n'en avons pas le temps ici, mais s'attarder sur chaque mot de ces phrases, des mots qui sont lourds de toute, bien sûr, l'expérience biblique, d'une part, au travers des verbes connaître, voir, demeurer, aller vers, etc., etc. Et la parole qui est en même temps une œuvre. La parole, ce n'est pas simplement un verbiage. La parole est celle qui exprime l'œuvre de celui qui s'est lui-même défini, nous l'avons rappelé il y a peu de temps, à Moïse, « Je suis ». Je suis. Alors, oser dire « Je suis la vérité et la vie », bien, celui qui ose dire cela s'identifie carrément à Dieu lui-même. Voilà. Et même si ces deux personnes sont bien distinctes, puisque Jésus dit « Je suis le chemin », sous-entendu le chemin vers le Père. Voilà, tout simplement. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et nous revenons à ce que nous disions dimanche dernier sur la théologie de la porte. Voilà ce qui me vient à l'esprit pour commenter quelques instants cet évangile. Personne, oui, ne va vers le Père sans passer par moi. Il faut prendre très au sérieux cette phrase. Parce que nous y trouvons la communion de toute l'humanité en Jésus-Christ. Le Christ, autrement dit, ne va pas vers le Père sans nous. Et là, on comprend aussi pourquoi je dis ça, parce que, ayant pris la même chair que nous, par le mystère de l'incarnation, eh bien, il entraîne derrière lui l'ensemble de l'humanité. Hein. Là où je suis, vous y serez vous aussi, etc. Donc c'est très beau, toutes ces phrases qui nous sont données de méditer et de laisser porter du fruit en chacun de nos cœurs. Et Jésus va terminer par une promesse solennelle, « Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. » Oui, après tout, ce qu'il vient de dire sur lui, et sa relation intime avec le Père, les œuvres, ça ne veut pas simplement dire des miracles, on comprend bien, mais le mot « œuvre », en parlant de Dieu, c'est toujours un rappel de la grande œuvre de Dieu pour libérer son peuple. C'est ça, ça veut dire. Les disciples sont donc associés à cette grande entreprise par Dieu pour libérer l'humanité. Alors il y a dans l'Ancien Testament la libération du peuple hébreu du joug des Égyptiens, c'est une première libération, Et la deuxième libération, si je puis dire, est celle du Nouveau Testament, celle qu'il opère par le mystère de sa résurrection, puisque c'est sa propre chair qui est ressuscitée, il entraîne derrière lui l'ensemble de l'humanité, et donc chacun et chacune d'entre nous. Bien, frères et sœurs, rendons grâce de cette parole qui nous est donnée aujourd'hui, et cette parole qui est faite chair et qui vient par le mystère de l'Eucharistie, nous l'avons rappelé dimanche dernier, eh bien, faire corps ou faire chair avec notre propre chair. Amen.